Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse. Bonjour Marie-Laure Sunshine.
Bonjour Ali.
De Femme Actuelle, on vous retrouve tout à l'heure en fin d'émission dans la rubrique Les choses de la vie.
Les séries télé, la mode, la publicité les mettent à l'honneur. Et si les transgenres avaient enfin trouvé leur place dans la société?
À tout à l'heure Marie-Laure Sunshine. Question ce matin, sommes-nous tous doués d'empathie? La capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent? Sommes-nous tous égaux en la matière? Pourquoi certains sont-ils davantage capables de se représenter correctement les émotions et les états mentaux des autres? Quels sont les avantages à faire preuve d'empathie dans sa vie personnelle, sociale ou professionnelle? Pourquoi l'absence totale d'empathie doit peut-être inquiéter? C'est par exemple le cas des psychopathes, d'après le test établi par le psychologue canadien Bob Haar. Et puis nous verrons jusqu'où se mettre à la place de l'autre, comme se le demande ce mois-ci le magazine Sciences Humaines. Et vous, faites-vous preuve d'empathie dans votre vie quotidienne, avec vos proches au travail ou avec de parfaits inconnus? Vous sentez-vous parfois débordé par votre empathie qui peut déboucher sur ce que certains psychologues appellent la fatigue compassionnelle, souvent ressentie par les professionnels de santé? Ou alors considérez-vous que l'empathie est une faiblesse dans un monde ultra compétitif? Nous attendons vos questions et témoignages par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter, où Ulysse et Josué attendent vos coups de fil au 01 45 24 7000.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Est-ce que l'humanité s'est construite sur la bonté, sur la bienveillance?
Ça mélange, bien sûr. Et je pense que les études récentes, notamment sur les tout jeunes enfants, montrent ça très clairement. Qui montrent que d'abord les enfants, si vous leur montrez des personnages qui se comportent soit violemment, soit avec gentillesse les uns avec les autres, même des enfants de 8 mois, quand on leur tend ces marionnettes, ils vont systématiquement sur celles qui se comportent de façon bienveillante à l'égard de l'autre. Donc tout ça montre que finalement il y a une plus grande satisfaction, ce qui veut dire aussi quelque chose de plus finalement en harmonie avec soi-même. C'est quand on est généreux, c'est quand on est bienveillant. Et ça se comprend, parce que nous en tant qu'animaux sociaux, c'est normal que l'évolution nous ait fait pour coopérer davantage que pour constamment nous combattre, parce que ça ne sera pas un animal social, à ce moment-là ça serait un prédateur solitaire. C'est bien naturel que la première tendance, à moins qu'elle soit contrariée ou déviée, soit de coopérer ensemble et de vivre ensemble. Donc ça paraît normal du point de vue de l'évolution.
Le biologiste et moine bouddhiste Mathieu Ricard, dans le documentaire « L'Odyssée de l'empathie » de Michel Ménian et Mario Viana en 2015. Sommes-nous tous égaux devant l'empathie? Pour répondre à cette question, trois invités. Bonjour Laurent Bègue.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychologie sociale à l'Université Grenoble-Alpes. Vous dirigez la Maison des sciences de l'homme Alpes et vous avez publié il y a quelques années Psychologie du bien et du mal chez Odile Jacob et L'agression humaine chez Duno. Et vous êtes en duplex de Grenoble à France Bleu. Isère. Bonjour Jean-François Dortier.
Bonjour Ali.
Vous dirigez le mensuel Sciences Humaines, consacré ce mois-ci à l'empathie, avec une question, jusqu'où se mettre à la place des autres? Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne et on vous retrouve dans quelques minutes dans votre chronique du mardi, chose vue. Et puis tout à l'heure au téléphone, nous aurons l'un des maîtres du thriller français, Franck Tilliez, qui évoquera ces tueurs psychopathes qui n'éprouvent aucune empathie. Laurent Bègue, pouvez-vous nous donner une définition de l'empathie? Qu'est-ce qui différencie par exemple l'empathie de la sympathie?
Alors d'abord, l'empathie c'est un terme très, très polysémique, hein. Il y a beaucoup de significations qui circulent, effectivement. On distingue par exemple l'empathie cognitive, se représenter les états mentaux d'autrui, de l'empathie affective, qui va consister à les éprouver finalement, donc avec une idée de résonance en quelque sorte. On parle également d'empathie compassionnelle, donc il y a plusieurs catégories d'empathie qui ont été construites dans la recherche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut un petit peu préciser les choses, parce que on peut très bien, comme le fait d'ailleurs récemment un psychologue de Yale, David Bloom, qui écrit un livre entier qui s'appelle Contre l'empathie, qui critique justement les limites de l'empathie et puis également les flous conceptuels autour de l'empathie. Eh bien, on peut très bien parler de l'empathie, mais finalement sans forcément la préciser. Donc là, on a trois formes d'empathie, trois formes, je dirais, à distinguer, et chacune évidemment a des spécificités.
Qu'est-ce qui différencie l'empathie de la sympathie? C'est peut-être une question de distance émotionnelle?
Voilà, la sympathie va davantage impliquer effectivement quelqu'un qui, avec laquelle on a peut-être un lien plus marqué, donc plus directement que dans le cadre de l'empathie. Donc cette distinction, effectivement, elle est faite parfois. Ce n'est pas d'ailleurs le cas chez Bloom, qui donc fait une synthèse de ses travaux. Mais globalement, effectivement, je pense que la distinction la plus opérante, c'est cette distinction entre l'empathie émotionnelle et l'empathie cognitive, qui ouvre finalement sur ce qu'on appelle les théories de l'esprit, la capacité à percevoir un point de vue différent.
Christophe André, l'empathie, c'est la même chose que la compassion ?
À mes yeux, non. Et aux yeux de pas mal de chercheurs, c'est quelque chose d'un petit peu différent, comme vient de le souligner Laurent Beg. Mais effectivement, tout ça est une question de définition. Moi, j'aurais tendance à considérer que l'empathie, c'est le fait de pouvoir se représenter effectivement les états mentaux, émotionnels d'autrui, éventuellement de les éprouver. Dans la compassion, il y a autre chose. Vous savez, la compassion, c'est un mot beaucoup plus ancien que le mot empathie. Et c'est décrit, par exemple, Fénelon avait une très belle définition de la compassion. Il disait, la compassion, c'est un amour qui s'afflige du mal de la personne qu'on aime. Et effectivement, on sait que la compassion englobe le désir d'aider, l'envie d'aider, et donc mobilise dans le cerveau, lorsqu'on fait des études de neuroimagerie, des zones associées au ressenti émotionnel positif. Et pas seulement, comme dans la pure empathie, les zones associées à la perception de la souffrance et de la douleur. Donc, il me semble légitime d'établir une différence.
Jean-François Dortier.
Oui, prenons des exemples pour bien distinguer ces notions, parce qu'effectivement c'est un mot fourre-tout, ce qui est d'ailleurs une des raisons de son succès, parce qu'il est un petit peu attrape-tout. Au sens ordinaire, l'empathie, c'est le partage d'émotions. Je vous rencontre ce matin, d'habitude vous êtes souriant, si par hasard je vous trouve une mine triste, qu'est-ce qui se passe Ali ? Alors vous allez me dire, voilà, il m'est arrivé quelque chose, ou à mes proches. Et donc forcément je vais être empathique avec vous, c'est-à-dire que je vais partager un peu votre douleur, un petit peu. Autre chose, ce qu'on appelle justement l'empathie cognitive, c'est que je comprends que vous êtes malheureux ou que vous êtes heureux, mais je ne partage pas. Si vous me dites, par exemple, j'ai gagné au loto, vous allez avoir un grand sourire, mais là, je vais sourire aussi par politesse, mais en fait, moi, je vais éprouver de la jalousie. Donc, je comprends vos émotions, mais je ne les partage pas. Autre chose est effectivement la compassion, ou qu'on associe aujourd'hui à la bienveillance, autre chose. C'est le fait, comme l'a dit Christophe André à l'instant, effectivement, d'être attentif à autrui et de faire attention. Ce qui n'est pas forcément lié à de l'empathie. Par exemple, vous attendez de votre médecin qu'il soit bienveillant à votre égard, qu'il vous soigne, qu'il soit attentif à votre douleur, à votre mal. Vous attendez pas de lui qu'il partage vos émotions, qu'il ressente votre douleur ou qu'il ressente votre joie. Voilà donc pourquoi ce mot est un peu attrape-tout.
Alors j'aimerais vous citer un extrait du roman Les cuisines du Grand Midwest de J. Ryan Stradall, publié chez Rue Fromentin. Pour Octavia, la morale était une construction sociale qui s'apprenait comme la responsabilité, l'humilité et même la générosité. Les êtres humains naissaient mauvais, de petits sociopathes cherchant uniquement à assouvir leurs désirs impulsifs, et beaucoup n'apprenaient jamais à devenir bons ni à développer des qualités telles que l'empathie ou la compassion, et ils demeuraient des enfants égoïstes, destructeurs, toute leur vie. Laurent Beg, pour beaucoup, l'homme n'est pas naturellement doué d'empathie. Comme le montre cet extrait de ce roman.
Alors, un point éclairant, c'est d'abord la référence au monde animal. D'ailleurs, on se posera la question de l'empathie interspécifique, c'est-à-dire peut-on éprouver l'empathie pour d'autres espèces ? C'est un point différent, mais je pense qu'il peut être traité également ici. Et puis simplement, on a des traces de formes prototypiques d'empathie chez les animaux. Ceci étant, peut-être que le monde serait meilleur avec moins d'empathie. Certains, en tout cas, l'affirment, encore une fois. Par exemple, en ce moment, c'est la période des lettres de recommandation chez les étudiants que je fréquente tous les jours dans l'université, qui veulent effectivement avoir des bourses de thèse ou bien des stages ou effectivement des accès en master. Donc ceux que je connais viennent me voir et me demandent d'écrire un courrier justement qui recommande leur candidature. Et là je suis face à un dilemme. Est-ce que je mets finalement l'accent sur leur qualité parfois pas tellement marqué justement, est-ce que je les pousse en avant, est-ce que j'empathise parce qu'ils ont des projets, parce qu'ils ont effectivement peut-être des responsabilités, ou bien des parents qui font pression, je ne sais pas, ou bien est-ce que je pense à ceux qui ne sont pas là, c'est-à-dire leurs concurrents, qui peut-être seront derrière eux si je mets trop l'accent sur les qualités que les étudiants qui exigent de moi, ou qui me demandent en tout cas une lettre, sont satisfaits. Donc ça montre bien que l'empathie présente des difficultés, et que dans certains cas, moins d'empathie, c'est plus de moralité.
Alors on le verra tout au long de cette cette émission, mais au contraire, par exemple, pour le prix Nobel d'économie Jeremy Rifkin, l'empathie est profondément ancrée dans notre nature. Il s'appuie notamment sur la recherche en neurosciences, Jean-François Dortier.
Oui. Alors, il y a un grand débat, justement, pour savoir si l'empathie, c'est le propre de l'homme ou c'est partagé par d'autres animaux. C'est même un débat qui dure depuis 30 ans au sein des sciences humaines et de l'éthologie. Pendant longtemps, on a vu le monde animal comme un monde de régi par la loi de la lutte tous contre tous, n'éprouvant pas d'empathie. Et depuis, on a beaucoup d'expériences qui montrent qu'il y a une solidarité dans le monde animal, et pas simplement entre même les gens qui ont des parentés, comme une maman qui s'occupe de ses petits, mais il y a des animaux qui adoptent d'autres animaux, qui ont de la sollicitude. Et l'image que vous avez donnée dans l'extrait, je pense, du roman à venir, c'est qui montre que le petit animal humain qui ne serait pas empathique et qui apprendrait la morale, aujourd'hui, on a beaucoup révisé cette vision des choses.
01 45 24 7000 pour témoigner et poser vos questions. Allez, il est temps d'écouter Les Choses Vues de Christophe André.
Choses Vues.
Je suis votre thérapeute.
Christophe André.
Christophe André, notre sujet du jour, c'est bien évidemment du pain béni pour vous ce matin.
Oui, c'est notre sujet. Il m'a fait penser à beaucoup de choses et notamment à un vieux rosier fatigué. Vous voyez. Dans notre jardin, nous avons depuis toujours un rosier très grand, sans doute très vieux, parce que lorsque nous sommes arrivés dans la maison, les anciens habitants nous ont dit qu'il était déjà là bien avant qu'eux-mêmes n'y habitent. Chaque année, il est très généreux en fleurs, mais ce printemps particulièrement, il nous a donné beaucoup de roses et ses branches ployées sous leur poids. Et une nuit, il y a quelques semaines, il y a eu un énorme orage, un vent violent, une pluie diluvienne, et les branches maîtresses du rosier se sont affaissées jusqu'au sol. Le matin, ma plus jeune fille le découvre depuis la cuisine, complètement courbée, et m'appelle très inquiète. « Papa, papa, le vieux rosier va mourir. » Alors je vais inspecter le pauvre vieux blessé. Bon, ouf, les branches n'étaient pas rompues, mais simplement pliées. Alors j'annonce ça à ma fille comme une bonne nouvelle. Je dis « C'est bon, il n'a pas cassé, je le remonterai, je le fixerai au mur ce week-end. » Mais elle n'est pas du tout contente. Elle dit « Mais papa, tu ne vas pas le laisser dans cet état jusqu'à dimanche. » Ah, j'avais pas du tout envie de faire ça maintenant, j'avais pas le temps, et puis je savais exactement ce qui allait m'arriver. Je vais me déchiqueter les mains pour le remonter, il est énorme, il va falloir être plusieurs, mettre des gros gants, une veste épaisse et tout ça. Mais tu ne l'aimes pas, notre rosier ? Se scandalise-t-elle, comme si elle me voyait abandonner un blessé sur le bord d'une route. Bah si, je l'aime beaucoup, ce rosier, mais les branches ne sont pas brisées, alors il peut attendre. Mais pour elle, il est comme mourant.
On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête. Et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain.
Et le souci avec ma fille, c'est que son empathie ne se limite pas aux vieux rosiers. Évidemment, ça concerne aussi les animaux, les humains, les SDF à qui personne ne donne d'argent, les petits vieux courbés qui ont du mal à marcher, les personnes handicapées. Son expression récurrente, c'est « ça me fait trop de peine ». Et c'est vrai, elle est hypersensible aux souffrances de tout ce qui est vivant, humain, animal ou végétal. Heureusement pour elle, elle n'est pas que dans la souffrance de l'empathie. L'empathie, c'est souffrir de la souffrance de l'autre lorsqu'on est confronté à ses émotions négatives ou ces situations douloureuses. Et c'est pour ça que certaines détresses empathiques nous poussent parfois à détourner les yeux ou à nous écarter de ce qui fait souffrir et les autres et nous. Et la solution, c'est la compassion, qui est de l'empathie associée à une émotion d'affection et à une action pour soulager la souffrance. C'est la seule équation vivable à long terme. Et au fond, c'est compassion égale empathie face à la souffrance, plus affection, plus action. C'est pour ça que ma fille me mettait la pression. Elle ne voulait pas qu'on en reste à l'empathie pour le rosier, mais qu'on passe à l'action, qu'on lui témoigne de l'affection. Oh, j'ai tenu bon, j'ai fait preuve d'empathie pour moi-même. Mais nous sommes quand même montés à 3 le week-end pour remettre le rosier d'aplomb le dimanche suivant. Depuis, il va très bien, merci pour lui. Et vous, Alice, ça vous arrive d'avoir des moments de détresse empathique, de souffrir, de voir les autres souffrir ?
Oui, ça va, avec les enfants gravement malades et avec les vieux mendiants dans la rue.
Notamment. À qui personne ne donne rien.
Exactement. Les choses vues de Christophe André, c'est tous les mardis dans Grand Bien vous fasse.
C'est bon moment, et... profiter de l'amour. Je vis ma vie.
Oui. Déguisé en gentrifié.
Une émission préparée par Alexa Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marlio et c'est réalisé par Claire Destacan.
Bien loin dans le réseau social animal, tu vis dans la jungle et tu cherches une place quand la lumière du jour te révulse, mais celle des réverbères te traverse l'esprit et quand la nuit tombe tu sens ta gorge qui se serre. Est-ce que tu ressens la sensation bizarre que tu as quand tu entres chez toi, loin des regards de la ville? Et là tu tournes en rond, alors tu te décides à sortir. Tu prends l'ascenseur et dans la rue Saint-Denis, tu tombes sur une pute qui te dit:
bah alors toi, qu'est-ce que tu fous là? Viens voir mon garçon, c'est pas la première fois que je te vois ici. Pourquoi tu passes toute soirée à boire et à errer dans les rues, de bar à l'after, la boîte de nuit? Toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes soirées. Tu enfiles ton bijou de cuir, les lunettes, les bottes qui raclent le sol. Tu prends l'ascenseur et là, tu pisses contre un mur. Pour toi, la nuit sera blanche. Tu t'enfonces dans les rues de Paris tragique.
Lorsque je déboule à minuit au faubourg, dis-moi, est-ce que tu t'apprêtes à sortir sous les menaces de la ville? Est-ce que tu recherches l'amour?
La femme SSD.
France Inter. Grand bien vous fasse.
Sommes-nous tous égaux devant l'empathie avec le professeur en psychologie sociale Laurent Bègue en duplex de Grenoble, avec Jean-François Dortier, directeur du mensuel Sciences Humaines, et avec la complicité du psychiatre Christophe André. Bonjour Aude, vous appelez de Coulommiers.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans l'émission.
Bienvenue, merci. Merci de prendre mon appel.
Alors vous êtes enseignante.
Oui.
Et alors,
je suis en... Oui, pardon.
Oui, allez-y, allez-y.
Je suis enseignante en lycée professionnel agricole, en fait.
Mmh.
Et donc, ça ne dépend pas de l'éducation nationale, ça dépend du ministère de l'Agriculture. Voilà.
Et est-ce que l'empathie fait partie de vos outils de travail avec vos
élèves?
Ah oui,
alors, voilà, en fait, je précisais un petit peu les choses, parce que on a parfois des façons de travailler qui ne sont pas équivalentes à celles de l'éducation nationale. Et notamment, on travaille beaucoup en pluridisciplinarité, et donc on utilise aussi beaucoup d'outils collaboratifs. Et ce que j'expliquais au standard, c'est qu'au départ, l'objectif n'était pas forcément de travailler sur l'empathie, mais on s'est aperçu qu'en utilisant des outils collaboratifs, alors style Google Drive ou des choses comme ça, on arrivait à faire travailler les élèves ensemble et à ce que les élèves produisent des travaux de groupe ou même des travaux de classe, et qui faisait qu'ils n'étaient plus en compétition. Voilà, et donc du coup, par rapport à des élèves qui arrivent avec beaucoup de difficultés, et notamment beaucoup de phobies scolaires dans les petites classes, hein, puisqu'on a des troisièmes aussi, c'est des outils qui nous permettent d'avoir des améliorations dans le rapport à l'école aussi.
Et Rebecca nous dit par Facebook que l'empathie est enseignée à l'école dans les pays nordiques. Cela fait partie des programmes scolaires. Et d'ailleurs, au Danemark, par exemple, l'empathie figure parmi les matières enseignées aux élèves de 6 à 16 ans. Pour vous, Aude, on devrait enseigner l'empathie à l'école, dès l'école maternelle ?
Oui, bah alors ça c'est une grande question parce qu'en fait il faut savoir quel citoyen on veut fabriquer en fait, hein, et quel citoyen on veut voir demain. Donc c'est vrai que quand on voit les programmes scolaires et l'école en général qui fabriquent des gens qui sont en permanence en compétition, ça laisse songeur sur ce qu'ils vont aussi faire dans leur vie personnelle, professionnelle plus tard, quoi.
Oui, sur l'éducation nationale. Alors, il y a deux choses qui concernent l'empathie dans l'école. Ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire le fait d'apprendre aux élèves à écouter l'autre. Donc, effectivement, il y a des programmes d'enseignement dans les pays nordiques où on apprend cette écoute. Il y a aussi, dans l'éducation nationale française, il y a un guide pour une école bienveillante qui a été publié en 2014 à l'attention des enseignants. Là, c'est dans le souci de repérer chez les élèves en difficulté une souffrance qui pouvait être cachée, parce qu'il y a des élèves qui sont harcelés, il y a des élèves qui sont malheureux, il y a des élèves qui sont phobiques. Et donc, l'idée d'une école bienveillante, c'est de se comporter à l'égard des élèves en ayant le souci aussi de ne pas les humilier, pour ceux qui sont en échec, de les respecter. Et donc, ça fait partie aussi aujourd'hui des missions qu'on attribue à l'école.
Laurent Bègue, en duplex de Grenoble.
Oui, donc la question qui est évoquée, c'est celle de la transmission finalement de cette empathie qui, on l'a vu, ça a été évoqué tout à l'heure, équipe également d'autres mammifères que les humains évolués que nous sommes. Et donc je crois que déjà au quotidien, l'une des pratiques qui a été observée par la recherche de promotion de l'empathie, c'est justement lorsque un enfant est amené à blesser un autre enfant, et bien le fait de mettre en relation son propre comportement avec ce qu'est éprouve la victime, par exemple. Donc, tu as vu ce que tu as fait, est-ce que tu aimerais qu'on te fasse cela. Tout ça, ça arrive des milliers de fois par an, selon Martin Hoffman, qui a travaillé justement sur la question de l'empathie précoce. Et ce type de style disciplinaire parental a été étudié en détail dans des recherches d'observation et établi que précisément l'usage fréquent de ce qu'il appelle l'induction, le fait d'orienter l'attention de quelqu'un vers les émotions éprouvées par exemple une victime, stimule les capacités empathiques beaucoup plus que d'autres styles éducatifs qui mettraient l'accent sur l'observance de normes, l'autoritarisme ou bien effectivement le désengagement parental. Donc je pense qu'il y a des pratiques très quotidiennes qui également peuvent stimuler les capacités empathiques.
Merci beaucoup Aude de nous avoir appelé de Coulommiers. Christophe André, pourquoi certains enfants sont-ils plus empathiques que d'autres ? C'est génétique, c'est lié à l'éducation parentale.
Comme la plupart des aptitudes humaines, c'est un mélange, un joyeux mélange de tout ça. Alors des études sur la génétique de l'empathie, je n'en connais pas, ou peut-être Laurent ou Jean-François en connaissent, mais ce qui est sûr, c'est que le bain éducatif, et l'éducation, c'est pas seulement dire aux enfants ce qu'ils doivent faire ou leur montrer ce qu'ils ont fait, mais c'est aussi se comporter nous-mêmes de telle ou telle façon. Ce qui facilite très certainement chez certains enfants un plus grand niveau d'empathie, c'est le fait d'avoir bénéficié eux-mêmes de ce qu'on appelle une écoute active de la part de leurs parents ou de leur entourage. C'est-à-dire lorsqu'on se met en colère, lorsqu'on est énervé, avoir en face de soi quelqu'un qui dit « Mais écoute, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu es en train de ressentir ? Pourquoi tu te mets dans ces états-là ?» Et montrer qu'on prête attention à ce qu'ils ressentent, que c'est une variable importante, pas seulement ce qu'ils font, mais ce qu'ils ressentent, est un moyen éducatif.
Alors il faut rappeler que dès la naissance, le bébé partage les émotions de ceux qui l'entourent et les émotions de sa sa mère en premier lieu, Christophe Fondré.
Bien sûr. Nous sommes des mammifères câblés pour l'empathie. Alors, on n'est pas câblés que pour ça, on est aussi câblés pour l'agressivité. Et après, l'éducation, la culture aussi dans laquelle on grandit, les cultures qui mettent en valeur tel ou tel type de comportement vont nous aider à façonner, à privilégier certains circuits cérébraux. Mais les circuits cérébraux sont livrés de série.
Et puis, dans une crèche, un bébé qui entend un autre bébé pleurer va souvent se mettre à pleurer également.
Oui, alors au départ, ça semble être des sortes de phénomènes de contagion, sans élaboration mentale particulière, sans intention de se rapprocher de l'autre ou de lui faire du bien. Au départ, il y a une espèce de contagion quasi mécanique, et puis peu à peu, on élabore notre vision de l'être humain, des relations humaines, pour aboutir à l'empathie, la compassion, etc.
Laurent Begg.
Oui, c'est d'ailleurs un exercice qui a été bien mis en place par des chercheurs au domicile, par exemple dans des familles où on va demander à l'un des frères et sœurs de simuler justement l'affliction, la peine, et on observe ce qui se passe et on constate qu'effectivement, lorsqu'il y a par exemple un enfant d'un an ou deux ans qui est présent et qui voit la scène, il s'approche préoccupé par la situation. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois on observe même des animaux de compagnie qui semblent être attristés par l'affliction simulée. Et par ailleurs, pour revenir à cette question de l'éducation empathique, ça me fait penser à une recherche sur la stimulation de l'empathie chez les auteurs de violences qui, dans le cadre de protocoles de justice réparatrice, étaient amenés à rencontrer la victime qu'ils avaient produite par leur comportement agressif. Des personnes qui avaient donc justement rencontré ce type de situation avaient un taux de récidive significativement plus bas, de 26% plus bas par rapport à un groupe contrôle dans un échantillon de près de 9000 jeunes qui avaient été étudiés. Donc ça montre bien que la stimulation, même dans le cadre d'un protocole finalement de rencontre entre victimes et agresseurs, peut favoriser également le développement d'empathie et diminuer la violence.
Bonjour Lila.
Bonjour Ali.
Vous appelez de Paris dans le 10e arrondissement, il me semble qu'on s'est déjà parlé. Ma mémoire est bonne. Et vous êtes enseignante à l'école, à l'hôpital, pardon ?
Voilà, toujours.
Alors, est-ce que vous utilisez les outils que sont l'empathie, la compassion pour transmettre certaines valeurs éducatives ?
Ben, je pense que si je n'étais pas capable de les ressentir, je serais incapable de travailler à l'hôpital.
Ce sont des moteurs pour vous ?
Oui. Ça a même été mes objectifs de travail, en fait. Je me suis parfois un peu ennuyée avec un groupe classe. Et en fait, c'était mon projet initial, quoi. J'ai commencé par faire des études de psycho, je voulais être psychologue. Et puis, je pense qu'il faut une certaine maturité pour arriver à être psychologue pour enfants, que je n'avais pas. Et du coup, j'ai pris le temps. J'ai repris mes études à 30 ans pour devenir un site, et l'idée c'était de retrouver la thérapie et le soutien aux enfants en souffrance via l'école. Et finalement, à l'hôpital, il se trouve qu'il y a des enseignants, chose que les gens ignorent assez souvent, et du coup j'ai trouvé la place qui me convient. Après, est-ce qu'on l'enseigne ? Je ne l'enseigne pas, mais c'est mon outil de travail, en fait. C'est mon outil de travail, et il y a deux choses après. Il y a les enfants en pédopsie, parce que j'ai beaucoup travaillé en pédopsychiatrie aussi, où là c'est d'autres choses, parce que c'est des choses qui ne se voient pas, et du coup l'empathie pour un malade, quelqu'un qui a des pathologies psychiatriques, est beaucoup plus tabou et beaucoup plus difficile, je pense, d'accès. Par contre, en pédiatrie, puisque les symptômes en général sont visibles, voilà, on a tout de suite un instinct de protection, de bienveillance. Et ce que je disais hors antenne à une des standardistes, c'est que entre eux, c'est assez naturel et assez instinctif, en fait. Ils se retrouvent tous, et du coup, ça marche, quoi. Ça fonctionne.
Lila, comment on vit une grande empathie, comme ça semble être le cas chez vous, quand on côtoie des enfants gravement malades ? Comment on fait ?
On essaye de... on ne sait pas, en fait, avant. Avant de commencer, on ne sait pas. Avant de commencer en psychiatrie, j'étais terrorisée. Et puis finalement, j'ai oublié. À partir du moment où je les ai vus, j'ai complètement oublié. Et en pédiatrie, c'est pareil. Après, on a toujours certaines limites. Il y a des enfants que j'ai perdu une élève depuis le début de l'année, et les derniers jours avant qu'elle parte, j'arrivais pas à passer la porte de la chambre, en fait. Et du coup, je pense que c'est difficile d'anticiper ça. Il faut le vivre, et on sait. Il y a quelque chose qui tout le monde est très bienveillant en pédiatrie, et du coup, Il faut juste le sentir, quoi.
Jean-François Dortier.
Oui, effectivement, dans les établissements de soins, les personnes qui sont confrontées à des malades, à des enfants, à des personnes âgées, enfin à des handicapés, sont par nature compassionnelles, mais leur métier pousse aussi à ce qu'on appelle une fatigue compassionnelle, qui a été repérée par des chercheurs, notamment un Américain qui s'appelle Charles Figley, qui a mis en avant cette notion-là, parce que au quotidien, ça peut être très très épuisant, parce que c'est pas un métier comme les autres de s'occuper des autres.
Christophe André, sur la fatigue compassionnelle que certains professionnels de santé éprouvent dans leur travail.
Bien sûr. Alors, il y a une petite discussion, là aussi théorique. Au fond, quand vous en parlez avec Mathieu Ricard, il dit non, c'est pas la fatigue compassionnelle, c'est l'usure empathique. Parce que la compassion, finalement, est plus protectrice que la simple empathie. Hein, l'empathie, donc, c'est la résonance par rapport à la souffrance de l'autre. Et dans la compassion, il y a de l'amour, il y a de l'action. Et c'est sans doute ce qui se passe pour Lila. C'est-à-dire, elle ne fait pas que voir ses enfants gravement malades. Elle entre en contact avec eux, elle leur donne de l'amour, elle agit auprès d'eux. Et ça, c'est ça qui nous sauve de cet épuisement compassionnel ou empathique.
Laurent Bègue.
Alors, simplement pour illustrer par une recherche qui a été menée chez des enfants, cette idée de suractivation empathique qui peut parfois être désagréable. On a une étude qui a été faite chez des enfants de 5 à 13 ans qui voyaient des films dans lesquels, par exemple, un enfant se faisait punir injustement ou bien une fillette était séparée de sa famille. Et on observait que l'attention qui était portée sur les films augmentait, l'empathie éprouvée donc s'élevait jusqu'à un certain seuil. Et ensuite, lorsque justement la situation devenait plus intenable, il semblait que les enfants détournent leur attention, se désagréablent. Investissent, comme si à partir d'un certain moment l'empathie était précisément surexcitée et ça oblige finalement à d'autres mécanismes de régulation.
Christophe André.
Oui, parce que le simple fait de voir la souffrance au bout d'un moment devient intolérable si on ne peut pas agir et s'engager.
Merci beaucoup Lila de nous avoir appelé. Vous pouvez continuer à témoigner et poser vos questions au 01 45 24 7000 et témoigner également par courriel. Grand bien vous fasse à radiofrance.com.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said.
REM, Losing My Religion.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h43, sommes-nous tous égaux devant l'empathie avec le professeur en psychologie sociale Laurent Bègue, Jean-François Dortier, directeur du mensuel Sciences Humaines, et avec la complicité du psychiatre Christophe André. Laurent Bègue, selon une étude scientifique des chercheurs des universités Columbia et Berkeley aux États-Unis, nous serions plus ou moins aptes à l'empathie selon la quantité de testostérone qui circule dans notre sang ou notre salive. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Alors, bon, les travaux sur la testostérone sont effectivement assez excitants, assez intéressants, qui montrent effectivement soit par injection testostérone, soit par modulation contextuelle, puisque lorsqu'on crée un enjeu, par exemple une compétition, eh bien, on observe des variations circonstancielles de niveau de testostérone. Et ce qui apparaît, c'est qu'effectivement, la testostérone semble affecter les capacités empathiques. Donc, c'est des observations, des corrélations, pas forcément très bien expliquées d'ailleurs, mais qui suggèrent que certains substrats hormonaux sont associés à certaines dispositions de détection de signaux sociaux. Alors, on a effectivement également des travaux qui ont été menés sur la résolution de dilemmes moraux impliquant justement la résonance émotionnelle et l'empathie, qui montraient que l'injection donc de testostérone chez des personnes modifiait la perception de la situation et affectait, diminuait en gros l'empathie éprouvée pour des victimes décrites. Donc, c'est un point effectivement assez intéressant.
Christophe André, est-ce qu'il existe des tests pour évaluer son niveau d'empathie ? On peut peut-être se poser des questions toutes simples. Par exemple, sait-on qualifier son propre état émotionnel ? Sait-on écouter ? Est-on capable d'écouter sans juger ? Perçoit-on les besoins des autres ? Est-ce qu'on est capable de se mettre à la place des autres avant de les critiquer ? C'est des petites questions comme ça qu'on peut se poser déjà. Alors, c'est pas scientifique, évidemment, mais pour essayer d'évaluer son propre niveau d'empathie ?
Bien sûr, se poser des questions au quotidien, observer aussi comment nous fonctionnons dans l'écoute des autres. Est-ce que nous faisons une place à des questions sur leur état émotionnel ? Finalement, la personne que j'ai en face de moi, dans quel état est-elle ? C'est l'exemple que donnait Jean-François Dortier tout à l'heure. Quand je retrouve mes collègues de travail le matin, est-ce que je suis capable de voir à leur tête s'ils sont soucieux ou non ? Est-ce que je suis capable de leur en parler ? Est-ce que je suis capable d'écouter ce qu'ils me racontent ? Ou est-ce que c'est juste des rituels sociaux ? L'empathie et donc la compassion lorsque souffrance il y a, c'est vraiment une élaboration. C'est pas juste ni un réflexe de politesse, ni une sorte d'automatisme neuronal. C'est vraiment associé à des valeurs, la valeur qui est la valeur de bienveillance, de respect d'autrui, de compréhension que les liens humains nécessitent le respect des états émotionnels d'autrui.
Alors, par courriel, Julien nous dit, voilà, je suis policier, je suis très sensible à ce phénomène de l'empathie. Ma spécialité est l'investigation dans le cadre des atteintes aux personnes, et lorsque je reçois des victimes vraiment touchées psychologiquement, il m'arrive de devoir me pincer discrètement pour ne pas que les larmes me viennent. Et un autre mail de Françoise qui me dit « Je suis infirmière à domicile, j'ai beaucoup d'empathie pour les patients et de la bienveillance en règle générale, mais jamais je ne me mets à leur place car je finirai épuisé, Jean-François Dortier.
Oui, il faut des mécanismes de défense contre l'empathie parce que, effectivement, elle n'est pas toujours d'ailleurs bonne conseillère. Deuxièmement, il faut en signaler aussi les dangers, parfois les sélectives. À l'égard de certaines personnes, une forte empathie peut aussi s'accompagner d'une indifférence émotionnelle vis-à-vis d'autres types de souffrances, d'autres types de personnes. Donc, c'est vu aujourd'hui comme une bonne chose, un phénomène positif, mais il faut en signaler aussi les ambivalences.
Laurent Bègue.
Oui, je pense qu'effectivement, on peut amplifier ce développement sur les limites de l'empathie, hein, puisque, comme l'a dit Jean-François Dortier, il y a une sorte de focalisation sur l'ici et maintenant, qui peut être dommageable finalement à une forme de justice pour les absents. On est finalement très empathique face à la photo d'un Elaï Kurdi, effectivement, d'un réfugié, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément produire des comportements d'aide. Et dans les recherches où on compare justement la réaction empathique face à des stimuli de détresse, on constate que finalement nous sommes comme disposés à réagir fortement à une victime, mais dès qu'elles sont plus nombreuses, eh bien l'empathie semble moins forte, comme si on avait du mal finalement à empathiser avec beaucoup de monde à la fois. Et bien sûr, du point de vue social, ça pose un problème.
Je suis en prison pour avoir tué 4 personnes. Il y a une voiture qui est passée avec un haut-parleur. On annonçait que chaque Hutu devait se défendre, qu'il y avait un seul ennemi, le Tutsi. J'ai sauté hors du lit, j'ai pris ma massue, je suis sorti et j'ai commencé à tuer. Il y avait une vieille dame dans les environs, près de chez Vianney, avec 2 jeunes enfants qui n'avaient pas l'âge d'aller à l'école. J'ai tué les enfants et lui a tué la vieille. Je ne connaissais pas très bien les gens que j'ai tués. On nous a juste dit qu'il fallait pourchasser les Tutsis et nous avons commencé à les massacrer. En ce qui me concerne, personne ne m'a forcé à le faire. C'est quelque chose qui a germé comme ça dans ma tête. J'étais le premier à tuer. Je croyais pas mal faire au moment des faits. C'est quand j'étais arrêté que j'ai réalisé que j'avais commis des crimes.
Un extrait du documentaire diffusé sur France Culture, Rwanda 1999, Revivre à tout prix, de Madeleine Muka Mabano. Voici le cas extrême, hein, d'un génocidaire Hutu qui n'a éprouvé aucune empathie pour ses victimes Tutsi au Rwanda. Christophe André, ce génocidaire dénommé François peut massacrer le matin et peut faire preuve l'après-midi d'empathie avec ses propres enfants.
Bien sûr, c'est l'empathie sélective, effectivement, c'est notre pente naturelle d'une certaine façon. C'est plus facile, effectivement, d'avoir de l'empathie pour des gens qui nous sont proches, des gens qu'on fréquente, des gens qu'on comprend facilement. Et puis, ce témoignage pose aussi la question de l'extinction programmée de l'empathie. C'est-à-dire, on peut aussi déshumaniser des individus, comme ça a été le cas pour le monsieur qui témoigne, en augmentant la distance avec les personnes dont on veut qu'ils les agressent, en exprimant que c'est presque pas des humains, en tout cas que ce sont des ennemis qui vont faire du mal, en activant les émotions négatives, en creusant les fossés entre humains. Et donc cette déshumanisation, malheureusement, marche également.
Laurent Bègue.
Oui, par ailleurs, effectivement, on peut simplement créer une forme de colère empathique en focalisant l'attention sur des supposées victimes, comme va le faire par exemple Donald Trump sur une victime soi-disant de viol à San Francisco, pour ensuite mettre en œuvre ou défendre des mesures qui finalement seront injustes envers le plus grand nombre. Je renvoie également, pourquoi pas, à ce fait divers. Vous savez, lorsque en 2000, ça devait être en 2002, je crois, il y a une quinzaine d'années, lorsque il y a eu Georges Voise, donc un retraité à Orléans avait été agressé. On avait une couverture médiatique très forte qui a eu un impact effectivement sur les élections présidentielles. Et beaucoup, finalement, on fait l'hypothèse que cette focalisation sur une victime bénéficiait à certaines ailes politiques. Et donc je crois que l'empathie pour une victime peut finalement avoir des conséquences sociales relativement importantes. Et je crois que dans ce cadre-là, il importe évidemment de pondérer les réactions que cela a et de mesurer les conséquences d'une mesure politique, par exemple, à plus long terme, sur le plus grand nombre.
Bonjour Franck Tillier.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Vous êtes romancier, l'un des grands maîtres du thriller en France. Vous êtes ingénieur de formation et vous avez notamment écrit Pandémia, Rêver, disponible en poche, dernier succès en librairie Charcot, chez Fleuve Noir. Alors le psychologue canadien Bob Haar a mis en œuvre une liste en 20 points qui permet de repérer une personnalité psychopathe. Et dans cette liste figurent l'insensibilité et l'absence d'empathie. Et puis une étude de l'université de Chicago montre que les tueurs en série sont incapables au dernier degré de ressentir de l'empathie. Franck Tillier, dans vos romans, beaucoup, beaucoup de tueurs dénués d'empathie.
Oui, alors c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse, puisque j'écris des romans qui ont rapport avec le milieu criminel. Et les personnages que je construis, qui sont aussi des vraies personnes qui existent, ont des comportements criminels assez forts. Et ils vont tout mettre en œuvre pour assouvir leurs ambitions personnelles sans exprimer la moindre empathie envers les personnes qui les entourent. Et c'est un trait très très fort de la psychopathie. Et les psychopathes vont avoir tendance à considérer les personnes qui sont autour d'elles comme des espèces d'instruments qui vont leur servir à les mettre en valeur. Ils utilisent des armes assez fortes, et c'est ce qu'on retrouve chez la plupart des tueurs en série, que sont la manipulation, la séduction, le mensonge, l'intimidation.
Pourquoi cet intérêt pour ces personnages psychopathes totalement dénués d'empathie? Qu'est-ce qui vous fascine chez ces personnages?
Ah, ils sont assez fascinants parce qu'ils permettent de construire ce qu'on aime faire dans les romans policiers, ce qu'on appelle les grands méchants, c'est-à-dire des assassins qu'on va avoir du mal à attraper, qui ont une certaine forme d'intelligence, qui ont un QI assez conséquent. Je pense à des films comme on connaît tous Hannibal Lecter, du Silence des Agneaux. Il y a un personnage de Bret Easton Ellis,
American Psycho.
American Psycho, qui est quelqu'un d'intégré, de vraiment haut placé dans la société, qui commet des meurtres abominables. Et donc c'est cette séparation entre ce que ces personnes dégagent dans la société et ce qu'elles sont réellement au fond d'elles, qui est complètement intriguant et qui moi m'intéresse à creuser, parce que j'aime beaucoup creuser la psychologie des personnages et de ces personnes-là en particulier.
Et puis heureusement que tous les psychopathes ne sont pas des criminels, des tueurs en série, il en existe également en entreprise.
Oui, alors oui, c'est ça, il faut faire très attention de ne pas confondre, c'est-à-dire que tous les tueurs en série ne sont pas forcément des psychopathes, ils peuvent être psychotiques, c'est-à-dire agir plus en rapport avec des troubles vraiment dissociaux de l'identité comme la schizophrénie, la démence. Mais dans l'autre sens, tous les psychopathes ne sont pas des tueurs en série. Et je dirais heureusement, parce qu'on estime qu'ils sont à peu près 1% de la population, c'est-à-dire qu'une personne sur 100 serait psychopathe. Et d'ailleurs, il y a des études de fait au niveau des grandes entreprises américaines où on estimerait qu'il y aurait 4% de personnes psychopathes parmi les grands patrons. Et qui sont, moi je les compare un peu à des trous noirs, vous savez, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont absorber l'énergie des personnes qui gravitent autour d'elles, qui vont l'utiliser pour grossir eux-mêmes, et qui ont une incroyable capacité à anéantir, à dévaloriser en permanence les personnes qui sont autour d'elles, et qui les vident réellement de leur énergie. Et c'est ce qui peut conduire justement toutes ces personnes qui gravitent autour de ces psychopathes à développer elle-même justement des maladies psychiques comme la dépression.
Et Franck Sillier, pour conclure rapidement, un bon romancier, c'est souvent celui qui sait créer un fort sentiment d'empathie avec son lecteur.
Mais exactement, parce qu'en fait, ce qu'on essaye de faire quand on crée des personnages, c'est qu'on veut absolument que le lecteur lui-même entre en empathie avec nos personnages. Donc on est obligé de se mettre dans la tête du lecteur qui va lire notre histoire. On est obligé d'essayer de ressentir les émotions qu'il va ressentir à la lecture. Et c'est en ce sens-là où vraiment il y a une très très forte empathie vis-à-vis de nos lecteurs.
Merci beaucoup Franck Tillier. Charcot, votre tout dernier livre est disponible en librairie chez Fleuve Noir. Bonjour Laure.
Bonjour.
Vous n'êtes pas une psychopathe, vous êtes, paraît-il, doué de beaucoup d'empathie. Enfin, Christophe André est en train de faire des gestes en disant « on ne sait jamais, sait-on jamais ».
Non, je rigole.
Alors, vous appelez des Deux-Sèvres, Laure, et on va conclure avec vous. On a une petite minute 15 avec vous, et on écoute avec plaisir votre témoignage.
Bon, c'est juste que l'année dernière, donc j'étais à Mayotte à cette époque-là, et il y a eu des Mahorais qui ont expulsé de villages des Comoriens, et parfois par des jets de pierre en pleine nuit avec des petits enfants, etc. Et donc j'ai été amenée en fait à leur apporter à manger, parce qu'il y avait tout un groupe qui était un carrefour, et qui sont restés le soir très tard sans couverture, sans rien. Et pendant toute cette période-là, il m'arrivait de ne pas aller en cours, je suis enseignante, pour pouvoir aider les gens, et je me suis un peu mise en danger. Enfin, il y avait des gens des Mahorais qui m'avaient repéré et qui m'insultaient parce que je les aidais, et mon mari, ça le rendait fou parce que je mettais en danger, quoi. Mais moi, je me voyais pas faire autrement, et même encore maintenant, je vous avoue que j'en parle avec émotion parce que ça m'a pas quitté, et je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore surmonté cette période, quoi.
Merci beaucoup, Laure, de nous avoir appelé des Deux-Sèvres. Un mot de conclusion très rapide, Christophe André.
Le mot de conclusion, c'est que l'humanité, à mon avis, ne pourrait pas tenir sans toute cette multitude d'actes basés sur l'empathie et la compassion. Ça serait invivable.
Merci beaucoup Laurent Beg. Vous êtes donc psychologue social à Grenoble. Merci aux équipes de France Bleu sur place. Merci Jean-François Dortier. Merci. Le dernier numéro de Sciences Humaines consacré à l'empathie est disponible en kiosque. Tout de suite, Marie-Laure Sunshine, Femme Actuelle. Rebonjour Marie-Laure Sunshine.
Rebonjour Ali.
Alors cette semaine, vous vous demandez si on assiste à la fin d'un tabou sur la question des transgenres.
Alors les transgenres, si vous permettez Ali, je pense qu'il faudrait peut-être donner une définition. Un trans est une personne qui estime que son identité psychique est différente de son identité biologique. Selon la Haute Autorité de Santé, on estime à environ 6000 le nombre de personnes transgenres en France, soit une sur 10 000 environ. Et il faut savoir que les choses ont changé, mais très récemment dans la société française. Depuis 2010 seulement, le transsexualisme n'est plus considéré comme une maladie psychiatrique. En outre, la pénalisation de la transphobie est également récente puisqu'elle date de 2012. Donc on le voit bien, les choses bougent, mais c'est extrêmement récent tout de même.
Ça bouge notamment à travers la fiction populaire.
Absolument. Alors, bon, comme souvent j'allais dire, ça vient des États-Unis. On l'a beaucoup, je suppose, de vos auditeurs connaissent cette série qui passe sur Netflix, Orange is the New Black, avec une femme, donc ça se passe dans une prison de femmes, une femme qui joue une coiffeuse qui s'appelle Laverne Cox, qui est devenue l'icône des trans aux États-Unis. Elle a rencontré Michelle Obama, elle multiplie les apparitions pour démonter les stéréotypes. Il y a également Caitlyn Jenner, qui est née Bruce Jenner, et qui est l'ex-beau-père de Kim Kardashian, que vous connaissez bien, bien sûr.
Voilà, là, on a une aussi, série sur TF1.
Absolument. Il y a la mannequin brésilienne aussi, Valentina Sampaio, qui est star des défilés, qui est en une des magazines. Et puis en France, ça y est, les choses continuent également à bouger, avec notamment la série Louise, qui a été diffusée au printemps dernier, qui a fait sensation avec plus de 4,3 millions de téléspectateurs en prime time. Donc c'est l'histoire qui est une histoire qui a touché le grand public au point qu'il y a 6 nouveaux épisodes qui sont déjà prévus. Il y a également une chroniqueuse transgenre qui est intervenue dans le grand journal de Canal+. Bref, on le voit, la société commence à intégrer ces personnes dans la société, mais ça ne va pas suffire.
Oui, mais il y a encore beaucoup trop de discriminations.
Absolument,
évidemment.
Il y a des discriminations, très clairement. Un récent rapport du Défenseur des droits indique que 44% des personnes trans déclarent avoir été discriminées dans leur recherche d'emploi et un tiers d'entre elles au travail. Donc il y a encore du chemin.
Merci beaucoup Marie-Laure Sunshine. Un papier à lire cette semaine dans Femme Actuelle. À la technique ce matin, David Federman et Florent Layani. Demain, comment lutter contre les violences scolaires? Vous pouvez témoigner et poser vos questions par courriel. Grand bien vous fasse à radiofrance.com. À suivre Nagui et Sabine d'original.
Grand bien vous fasse.